Raphaël Enthoven, vous venez à Bruxelles pour la leçon inaugurale des Mardis de la philo. Alors, on sait que vous êtes un passeur de philosophie à travers différents médias, dont la radio, dont les entretiens sur Arte. Est-ce que cette forme nouvelle d'utiliser la radio n'est pas finalement éminemment philosophique, puisqu'elle renoue avec une sorte de colloque singulier?
Oui, la radio est un média philosophique par excellence. C'est vraiment le média philosophique par excellence parce que c'est un média qui est débarrassé de l'image et qui donc à cet égard, or le paradoxe de l'image c'est qu'au lieu de montrer quelque chose, elle recouvre bien souvent ce qu'elle montre de l'image justement. Et puis l'image parle aux yeux, la radio parle aux oreilles, le chemin est plus court. Donc oui, je suis un farouche partisan de l'utilisation de la radio comme d'un média socratique. Il faut dire aussi qu'à cela s'ajoute le fait qu'on a en France, je crois, quelque chose sans équivalent, enfin je ne connais pas d'équivalent, qui est France Culture, qui est une radio merveilleuse où moi j'ai été payé pendant des années maintenant, ça fait plus de 10 ans que je suis payé pour parler de livres qui sont loin de l'actualité, de problèmes qui sont totalement inactuels, mais qui sont bien présents à la conscience de chacun. Bref, c'est une radio qui rappelle que les médias ne sont que le moyen de transmettre quelque chose et non pas une fin en soi. Donc je n'ai pas eu le sentiment de trahir mon métier de professeur en l'exerçant à la radio dans ce cadre-là. Après, il y a d'autres médias qui vous demandent ou qui vous imposent un temps de parole si bref que vous ne pouvez rien dire et qui, au fond, n'exigent votre présence que dans la mesure où elles donnent un peu de cachet aux deuxièmes parties de soirée. Là, c'est tout à fait autre chose. Mais il y a encore quelques havres, France Culture ou Arte, par exemple, qui ménagent la possibilité, vraiment qui se donnent comme des moyens, comme les moyens d'une transmission où on n'est pas obligé de simplifier ce qu'on raconte, c'est-à-dire on n'est pas obligé de vulgariser. Or, il ne faut jamais vulgariser, jamais.
L'autre dimension de la radio et de l'entretien est qu'il donne cette possibilité d'être en permanence dans la dimension philosophique qu'est le questionnement continu. L'important est dans la question autant que dans la réponse.
Oui, il y a plusieurs façons de l'entendre, mais vous avez raison. En terminale, en général, la première phrase qu'on apprend, c'est une phrase de Karl Jaspers qui dit « En philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses ». Bon, mais il y a beaucoup de manières d'entendre cette phrase, parce qu'on peut à la fois le comprendre comme le fait que chaque phrase est la réponse à une question possible, et qu'en définitive, tout ce qu'on dit, tout ce qui existe, est susceptible d'un questionnement. Ça, c'est parfait. On peut aussi l'entendre comme le fait que la philosophie est, comme elle le dit elle-même, amour de la sagesse, c'est-à-dire manque de sagesse. On aime ce dont on manque. Et que si la philosophie est amour de la sagesse, c'est qu'elle-même n'est pas sage, c'est qu'elle-même est folle, et que donc cet amour-là est un amour fou. Et qu'il y a donc, en fond sonore, l'idée d'une sagesse absolue à laquelle elle ne pourrait que tendre sans y prétendre. Et c'est une conception de la philosophie à laquelle, personnellement, en tout cas, je n'adhère pas. Je préfère à l'amour de la sagesse substituer la sagesse de l'amour, c'est-à-dire l'aptitude justement à s'intéresser à ce que nous avons sous les yeux ou sous les mains. C'est plus facile de chercher ce qui est derrière les apparences, parce que ça n'existe pas, que de tendre la main vers l'objet qu'on a à nos pieds, devant nous, parce qu'il a l'inconvénient d'exister et d'être imparfait à ce titre. De sorte que si la philosophie doit nous détourner de l'immédiat, je pense qu'en un sens, une partie de moi pense qu'elle ne mérite pas une heure de peine. Une philosophie qui nous réconcilie avec le monde, ses difficultés, avec ce que Proust appelle la tyrannie du particulier, avec l'ennui d'exister, avec la douleur d'exister, avec l'habitude, avec l'amnésie quotidienne. Une philosophie qui nous réconcilie avec l'ordinaire me semble plus trapue, au fond, qu'une métaphysique standard qui voudrait nous éloigner du monde au profit d'une sagesse absolue.
Est-ce que cette philosophie trapue, d'une certaine manière, la rend plus accessible, ou en tout cas peut donner l'impression qu'elle est plus accessible, je dirais, au commun des mortels, c'est-à-dire ceux qui n'ouvrent pas le livre de philosophie parce que les concepts sont trop difficilement préhensibles, parce qu'il y a tout un vocabulaire? Est-ce que la philosophie trapue n'est pas aussi une merveilleuse porte d'entrée vers l'accessibilité de la philosophie.
Je le crois, absolument, je le crois. Merci de cette belle question, je le crois, effectivement. Je pense que le fait de se donner des objets qui sont familiers à tous, de se donner des points de départ, pardon de me citer, hein, mais dans l'émission de télé que j'ai le bonheur d'animer sur Arte, on travaille sur des images. Le principe des images, la règle d'or des images, c'est d'être soit des chefs-d'œuvre, soit des images absolument familières à tous. De sorte que un téléspectateur peut avoir, dans une discussion qui peut lui sembler parfois difficile, le contrepoint d'une image qui lui sera toujours familière. Et cette discussion naîtra de l'image, de toute façon. Donc, effectivement, en termes pédagogiques, il est parfois plus utile et plus accessible de se donner des objets justement accessibles, immédiatement accessibles. En même temps, il ne faudrait pas verser dans le poujadisme qui considère qu'il n'est de philosophie que des petites choses. Parce qu'à ce moment-là, on est dans une démarche condescendante. Regardez, on va faire une philosophie du gadget, on va faire une philosophie du surf, du golf, du tabac, des échecs, enfin peu importe, je veux dire, après la philosophie va, de manière un peu condescendante ou paternaliste, se pencher sur les objets du quotidien pour dire qu'elle aussi en est capable. Ça ne fonctionne pas, c'est un peu comme une vieille gloire, si vous voulez, qui se maquillerait pour avoir l'air encore jeune. En revanche, oui, partir du quotidien, c'est la rendre accessible, mais de façon générale, pardonnez-moi, l'accessibilité de la philosophie est un faux problème. Quand on demande à la philosophie d'être accessible, la philosophie est un exercice difficile, il y a un vocabulaire comme pour la médecine, comme pour la psychanalyse, comme pour tout, bon, comme pour l'histoire, comme pour les sciences. Bon. Donc c'est un exercice difficile. Mais en revanche, lui demander d'être accessible, c'est-à-dire de simplifier son propos, me semble être une démarche spécieuse. C'est un faux problème. La philosophie n'a pas à se rendre accessible parce qu'elle l'est déjà. La philosophie ne fait que mettre des mots sur les questions que nous ne pouvons pas ne pas nous poser tant que nous sommes en vie. Et donc, la médiation d'objets du quotidien permet tout simplement de faire de la philosophie sans avoir à la simplifier. C'est en ce sens-là qu'il faut s'en servir. Il ne faut jamais simplifier, encore une fois, son propos. Toute simplification est une falsification du monde. Et la simplification est aux antipodes de la simplicité à laquelle prétend la philosophie. Rien n'est plus difficile que de faire simple. Rien n'est plus facile que de simplifier. Et pour faire simple, il faut commencer par se poser les questions qui nous viennent. Et puis voir ensuite les échafaudages auxquels elles donnent le jour.
Par accessibilité, j'entendais aussi le fait que ce que vous faites comme travail de transmission est aussi une sorte d'invitation à aller vers les livres, vers les auteurs. Vous avez écrit sur Montaigne, vous avez écrit sur Descartes. Une invitation à retourner au texte.
Oui, parce que les textes concentrent la totalité. Enfin, je n'en connais pas qui y échappe en tout cas, la totalité des questions que nous pouvons nous poser dans le temps de la vie. Et qu'ils les prennent en charge, et que leur lecture est en ce sens une bénédiction. Non pas parce qu'on y trouve des réponses, mais parce qu'on y trouve mieux formulées qu'on ne pourrait le faire, les questions qu'on ne peut pas ne pas se poser. Donc le retour au texte est fondamental, mais le retour au texte exige aussi, pour le coup, de la même manière que quand on apprend une langue étrangère et qu'on est immergé dans une langue étrangère, on a besoin de gens qui vous guident, qui vous aident. Le retour au texte exige d'avoir des professeurs. Faut pas y aller seul. Il faut y aller avec des gens qui vous montrent ce qui se trouve et ce qui peut échapper à votre attention à première vue ou à premier abord. Mais le retour au texte est fondamental. Et en faisant passer des textes, je ne fais pas tant passer de la connaissance, si vous voulez, que l'éventualité du désir de connaître. Je ne suis pas un passeur de savoir. Je sais des choses, comme tout le monde. Ce que je sais n'a pas plus d'importance que ça. En revanche, j'essaie de faire passer le désir de ces textes, que leur allure, leur apparence, le voile de poussière dont le temps les a recouverts, rend un tout petit peu abscons ou hermétiques. J'essaie de montrer que derrière cet hermétisme, il y a des intentions qui sont limpides et qui sont très claires, et qu'au fond, rien n'est plus facile que des textes de philosophes. C'est très facile, une fois qu'on a accepté de se plier à la difficulté de leur lexique, de leur vocabulaire, et de voir derrière ce voile d'érudition la lumineuse simplicité qu'ils recouvrent.
Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes un passeur de curiosité à l'heure plutôt que de questionnement ou de connaissance ?
Je préfère être un passeur de curiosité ou un passeur de désir qu'un passeur de certitude, de savoir ou de soupçon. Il faut bien distinguer d'ailleurs la curiosité du soupçon, parce que la curiosité n'est pas un vilain défaut, la curiosité est une magnifique qualité. Le problème, c'est le dévoiement de la curiosité en indiscrétion ou en désir de ne pas être dupe. Il y a des tas de gens qui sont dupes du désir de ne pas être dupe. Ceux qui disent « moi, monsieur, on ne me la fait pas ». C'est en général les théoriciens du complot. C'est ceux qui pensent qu'on leur ment toujours. En démocratie, et en particulier, plus qu'en dictature d'ailleurs, parce qu'on n'a pas la marge ou la liberté en dictature de se poser ce genre de questions, mais il est très important en démocratie de se méfier de sa propre méfiance, et donc de ne pas remplacer la curiosité par le soupçon. Essayer de travailler la curiosité, oui, de verser dans le soupçon qui est au fond le désir d'obtenir des certitudes, me semble un péché tantôt véniel, tantôt gravissime.
Vous disiez au cours de l'entretien que la philosophie a aussi une fonction au sein du monde d'aujourd'hui. Au sein de l'actualité, au sein de la confrontation de l'individu par rapport au monde qui l'entoure. Dans quelle mesure est-ce que la philosophie aujourd'hui répond à ces préoccupations, alors qu'on a le sentiment que par rapport à l'après-guerre, par exemple, en France, il n'y a plus de philosophes comme Albert Camus ou Jean-Paul Sartre pour prendre position, quelles que soient les positions qu'ils aient prises.
Oui, mais c'est que la philosophie aujourd'hui comme hier, ou demain, si vous voulez, la philosophie déploie un rythme, une temporalité qui est la sienne, qui est un rythme qu'il ne faut jamais soumettre au temps de l'actu. L'objet de la philosophie, c'est le présent, c'est pas l'actualité. Pour vous donner un exemple en termes politiques, la question n'est pas de savoir si c'est Hollande ou Sarkozy qui va gagner, mais c'est de savoir quel est le sens en démocratie du principe d'alternance, par exemple. L'objet de la philosophie, c'est de questionner le présent, plus que l'actualité, c'est-à-dire la houle plus que l'écume à la crête des vagues. En cela, elle impose au monde un temps qu'il est salutaire d'épouser pour ne pas devenir fou, tout simplement. Donc c'est une question de bonne santé. Elle est essentielle en ce sens. Elle est inactuelle, ce qui la rend toujours pertinente. Vous savez, quand il y a eu, par exemple, la crise financière, les gens se sont dit, il y avait dans les journaux, relisez Marx. Relire est sublime, je passe sur le relire évidemment, qui est fumeux, mais bon, relisez Marx. Et puis un mois plus tard, on croyait qu'on était sorti de la crise, Marx était redevenu obsolète et caduque. Non, Marx n'est jamais obsolète. Le diagnostic qu'il porte sur l'effondrement du monde capitaliste sous le poids de ses propres contradictions est un diagnostic constamment pertinent, et c'est en cela qu'il est pleinement philosophe, et c'est en cela que sa lecture est toujours féconde. Le temps de la philosophie n'est pas le temps de l'actualité. Le temps de la philosophie, c'est le présent, c'est le temps de la vie, ça n'est pas le temps du média. C'est paradoxalement d'ailleurs le temps de l'immédiat, mais d'un immédiat qui n'est pas celui de la consommation immédiate. Non, d'un immédiat qui est le monde sans les préjugés qui le recouvrent, qui nous mentent et qui nous rassurent. C'est cela que j'appelle l'immédiat. Et puis, je voulais vous dire autre chose, mais je l'ai oublié en fait, en cours de route, ça n'a aucune importance.
Sur le présent
L'utile, sur l'utilité. L'une des questions qui revient le plus souvent en général, c'est à quoi sert la philosophie ? Et j'ai coutume de répondre que la philosophie ne sert à rien, et que c'est en cela qu'elle est indispensable. En vérité, ce que la philosophie nous enseigne, c'est à ne pas soumettre nos existences, la totalité de notre existence, au régime de l'utile. Si vous voulez, il y a la vie de tous les jours qui impose de trier, de sélectionner dans le monde ce dont nous avons besoin. Si j'ai soif, le verre d'eau qui est là m'intéresse. Si je n'ai plus soif, il ne m'intéresse plus. Je suis obligé de sélectionner. Mon cerveau, dit Bergson, est une gare de triage. Donc oui, je suis obligé de choisir, de prélever dans l'utile. Et puis il y a la vie de chaque instant, qui n'est plus la vie de tous les jours, qui est la possibilité d'une éclaircie au sein de la grisaille quotidienne, où l'on peut enfin regarder le monde séparément du besoin qu'on en a. Et là, on est en pleine philosophie, c'est-à-dire qu'on est dans ce qui est plus qu'utile, ce qui est indispensable, c'est-à-dire ce qui désutilise le monde, ce qui désustensilise le monde, et qui nous le rend dans sa nudité, dans son silence, dans son inhumanité, qui nous le restitue de cette manière, et qui par paradoxalement, nous le donne à aimer. Et voyez que plus elle est inutile, plus elle nous sert, en un sens.
Pour clôturer cet entretien, j'aimerais, Raphaël Hendoyen, qu'on évoque l'année 2013, qui est l'année du centenaire de la mort d'Albert Camus, que l'on va commémorer de différentes façons. Et j'aimerais avoir votre réaction sur cette dimension de Camus, qui est le fait qu'il ait construit son œuvre à la fois en romancier, en journaliste, en homme de théâtre et en philosophe. En quoi est-ce que les autres approches que la philosophie pure alimentent, peuvent alimenter une réflexion philosophique, le roman par exemple?
Écoutez, Proust est pleinement philosophe, par exemple. Sartre voulait être Stendhal et Spinoza, en toute humilité, hein, c'est lui qui le disait à 19 ans. Quant à Camus, il a naturellement conçu son travail sous ces deux angles. Rien n'est plus philosophique que l'étranger, rien n'est plus littéraire que l'homme révolté. Donc, il n'y a pas de problème. Je crois que la distinction, en fait, n'a pas lieu d'être. À ceci près, peut-être que la littérature a une vitesse d'exécution parfois supérieure, une vitesse d'exécution intuitive parfois supérieure à la philosophie, notamment Noces de Camus. La dernière page du désert de Noces de Camus concentre une infinité de concepts et les dit et les met en scène mieux que des essais entiers. Donc il y a peut-être une vitesse d'exécution propre à la littérature que la philosophie ou que la pratique du jargon philosophique ne maîtrise pas ou ne permet plus de maîtriser. Mais en ce qui concerne Camus, bien sûr c'est un romancier philosophe, la dimension de lui-même sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est le fait qu'il a d'emblée conçu son travail en trois étapes, l'absurde, la révolte et l'amour. Et en fait, ces trois étapes, il les tient de Nietzsche, le chameau, le lion et l'enfant. La tripartition nietzschéenne du chameau, du lion et l'enfant est fondamentale. Le chameau chez Nietzsche, c'est celui qui se charge du poids des valeurs esclaves. C'est celui qui vit sous des fardeaux imaginaires. Le lion, c'est celui qui rejette tous ces fardeaux, mais qui reste encore l'esclave du désir qu'il a de rejeter les valeurs esclaves, qui est encore soumis à son impératif de rébellion. Et l'enfant, c'est celui qui, aux yeux de Nietzsche, rétablit l'innocence du devenir. À cette tripartition nietzschéenne correspond chez Camus l'absurde, l'expérience de l'absurde. Pourquoi vivons-nous dans un monde qui n'a pas de sens et qui en soi n'est pas aimable? La révolte. Mais la révolte qui ne saurait s'en tenir à elle, car si on s'en tient à elle, alors on verse dans le refus d'un monde qu'on a commencé par aimer trop vite, ou qui nous a déçus, l'amour, dont en fait il délivre la première formulation dans Noces, l'amour, c'est-à-dire l'art d'aimer le monde qui lui se fiche de notre existence, qui est une folie, aimer le monde. Alors que le monde ne nous aime pas, semble fou. Mais celui qui souffre du fait que le monde ne l'aime pas, celui-là souffre au carré, à la fois du fait que le monde ne l'aime pas et de la plainte qui s'élève contre lui. Celui qui choisit d'aimer un monde qui ne l'aime pas, dilue la souffrance que le monde lui inflige dans l'amour qu'il lui porte malgré tout. C'est l'objet de Camus. Et c'est en cela d'ailleurs que Camus n'a rien d'un révolutionnaire. Camus est un penseur de la plus haute exigence éthique, c'est-à-dire l'exigence de mesure, de paix, de réconciliation, telle qu'il la formule dans le dernier chapitre de L'homme révolté, qui inaugure ce qu'il pourra dire ensuite de l'amour, qu'il n'a pas pu conduire à son terme puisqu'il est mort, mais qu'il aurait fait probablement s'il avait fini le premier homme.
Un mot peut-être sur le mot enfant que vous avez évoqué. Est-ce que l'enfant, et ce sera ma dernière question, est-ce que l'enfant n'est pas finalement le premier et le plus authentique des philosophes?
Oui et non. Étymologiquement, il l'est puisqu'il est celui qui ne parle pas, donc il est celui qui n'a pas souillé ce qu'il perçoit des mots qu'on emploie pour le décrire et qui ont en général ce vice d'enfermer ce qu'on perçoit dans une définition précise. C'est comme quand on veut définir l'amour qu'on porte à quelqu'un, on le fait déchoir à l'instant où on le nomme, ou pire, quand on lui donne des raisons, par exemple. Donc il y a dans le mutisme, dans le silence de l'enfant, quelque chose qui relève d'une expérience, de ce qu'on appelle l'expérience ontologique, l'expérience de l'être, dans son silence, justement, qui fait de lui peut-être un philosophe. Le problème, c'est que il ne suffit pas d'éprouver le monde comme il est pour être philosophe, encore faut-il pouvoir le dire, paradoxalement, et ne pas sacrifier ce qu'on éprouve en le faisant passer par le filtre réducteur des mots. Disons que, je dirais que l'essentiel est de ménager l'enfance en soi, c'est-à-dire l'aptitude à regarder le monde sans préjugés. Ménager la part d'enfance dont on dispose, mais à cet égard, il n'y a pas d'âge pour être enfant. Ménager la part d'enfant, c'est-à-dire ne pas la noyer dans le sentiment de savoir ou dans le sentiment de la dire, dans ce qu'on peut en dire. Ménager la part d'enfance, c'est faire de l'enfant une métaphore plus qu'un petit homme, au fond. Et puis à cela s'ajoute aussi le fait que les enfants sont aussi dogmatiques que les autres et que bien souvent, ils ont des tas d'idées reçues sur le monde qu'il s'agit aussi de déconstruire. D'ailleurs, c'est intéressant quand on pense à la façon dont on éduque les enfants. On dit à la fois qu'il faut les écouter, ce qui est très juste, et en même temps qu'il faut leur apprendre à penser contre eux-mêmes. Les enfants concentrent peut-être les deux dimensions de l'être, dont l'une est proprement philosophique, et dont c'est-à-dire l'attention au monde, la vigilance, le fait d'éprouver le monde, et dont l'autre ne l'est pas du tout, c'est-à-dire le goût de savoir et de recouvrir le monde des certitudes qui nous aident à y vivre.
Raphaël Entoven, je vous remercie pour cet entretien et j'invite tous ceux qui nous écoutent à se tourner à présent vers vos émissions de radio, vos livres, vos émissions de télévision. Raphaël Entoven, je vous remercie.
Merci à vous.
Les rencontres d'Edmond Morel.